Audiolib présente Juste après Dieu, il y a papa, lu par l'auteur. Chapitre 1. Au fond, tout le monde se réjouissait de son malheur. Il payait le prix de son arrogance. Les gens d'en bas adorent voir tomber les gens d'en haut. Leur chute rétablit l'ordre selon lequel aucune tête ne doit dépasser et chacun doit ramper au milieu de ses semblables. Les médiocres n'aspirent pas à s'élever. Ils attendent simplement l'effondrement de ceux qui se pavanent au-dessus d'eux, leur manière à eux de se grandir. Il ne quittait presque plus l'appartement. Tout lui devenait blessure. Le regard d'un voisin, les murmures d'un passant, le jappement d'un chien, les rires des gamins courant les rues, les refrains d'ivrognes échappés des tavernes, le froid cinglant de l'hiver aussi bien que le retour du soleil. Devenu ours, l'homme se tairait. Les volets intérieurs rabattus assombrissaient sa tanière où persistait l'odeur piquante du vinaigre avec lequel régulièrement on nettoyait le carrelage. Sa robe de chambre lui faisait une silhouette d'automate. Raide, empesée, d'une étoffe teinte et reteinte dont le velours croûté laissait s'effilocher d'antiques broderies, elle le mannequinait excessivement en combinant la rigidité du vêtement, les ravages de l'arthrose et des rhumatismes avec un reste de dignité. Ce n'était pas une robe de pauvre, mais celle d'un ancien riche. Triste comme un souvenir d'opulence, plus cafardeuse encore qu'un passé évanoui. Alentour, le logis portait les marques d'une dégradation insidieuse. Des chaises dépareillées, un tapis aux lisières élimées, une table en pin croulant sous un amoncellement de brochures, de partitions et de lettres, quelques-unes avaient quand même trouvé refuge sur des étagères fatiguées. Ni harmonie, ni cohérence. Chez ce professeur de musique, tout paraissait désaccordé. Et surtout, il y avait, au cœur de ce fatras, une vacuité, un vide abyssal, où résonnait encore la rage d'avoir dû troquer les objets précieux, tabatière, montre, contre un peu d'argent. Il se tenait, roide, sur son fauteuil à dossier haut, lequel, à son instar, tentait d'imposer à la pénombre une sorte de solennité. « Alors ?» Il avait poussé cette exclamation au milieu d'une pièce déserte. S'adressait-il à des fantômes ? Sans réponse, il tonna. Agacé. Nanerle ! Sa fille, la trentaine, jaillit de la cuisine, les mains rouges d'avoir lavé des assiettes. Sèche, aussi plate qu'une cuillère en bois, elle arborait un teint blafard. Alors ? Répéta-t-il. Elle secoua la tête. Rien. En es-tu sûre ? Certaine. Aucune enveloppe, aucun colis, rien. Elle s'exprimait d'un ton dépourvu d'emphase, c'était une habitude chez elle, parler comme on essuie un coin de table. Il s'accorda un instant de réflexion. Rien hier, rien avant-hier, 2 semaines sans nouvelles. Et probablement rien demain, ajouta Nanerle, prolongeant sa pensée. Il la dévisagea, l'ingrate, toujours prompte à blâmer son frère. Par amertume, par pure, aigre et désolante jalousie. Après tout, comment ne pas se consumer de dépit face à un phénix ? Il répliqua la voix tremblante. « Tais-toi, ton frère ne peut pas nous oublier. »